France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Un nouveau disque aujourd'hui même, Édouard Elgar, et puis un autre aussi lundi, Michaël Jarrel, et un concert ce soir en ligne. Il se passe toujours quelque chose avec Renaud Capuçon, notre invité. Bonjour Renaud.
Bonjour.
En début de semaine, vous étiez à Madrid et à Bilbao. Vous vous êtes produit en concert, en public, avec Béatrice Chiranna. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Le bonheur de la scène, tout simplement, le bonheur de retrouver du public. Et ce plaisir du partage, parce que c'est quand même l'essence même de notre métier, c'est de jouer pour un public. Alors bien sûr, dans toutes ces captations, on joue pour un public aussi, qui est un public qu'on imagine, qu'on ne voit pas. Et ce soir, le concert que je donne, c'est un concert qui aura justement un peu des deux. C'est-à-dire que c'est évidemment, il n'y aura pas de public présent, mais c'est un public qui sera derrière un écran et avec une interaction. C'est la première fois que je fais ça. Je vais pouvoir parler au public, ils vont me poser des questions, on va choisir les pièces en fonction. Enfin, ça va être une expérience et je pense qu'on est dans une période où il faut expérimenter.
On y reviendra d'ailleurs sur ce concert un peu particulier puisqu'il est aussi une synthèse de ce qui s'est produit au printemps dernier. Renaud Capuçon, depuis un an régulièrement, vous avez agi, vous avez monté des initiatives que France Musique a relayées, notamment à Aix-en-Provence, des festivals. Vous avez interpellé les acteurs publics, la ministre. On vous a même vu jouer dans un supermarché en décembre, lieu essentiel contrairement aux salles de spectacle. Vous avez fait des lettres ouvertes ce matin, Renaud Capuçon. Vous êtes en colère, résigné, abattu, dans l'attente ?
Rien de tout ça et tout en même temps. Je dirais que je suis épuisé par le fait qu'on ne bouge pas plus. C'est-à-dire que je ne conteste pas le fait qu'on ne puisse pas jouer avec du public, je le comprends. Ce qui me rend absolument dingue, c'est le fait qu'on commence seulement à faire des essais pour tester le fait qu'on ait du public, etc. On nous annonce depuis un mois, on va faire des essais là en ce moment sur des grands concerts de rock, etc. À Paris et à Marseille. Et pourquoi ne pas avoir commencé ça il y a plus de 6 mois ou il y a plus de 8 mois? Ça fait un an qu'on vit avec ce virus, exactement un an jour pour jour quasiment. Je trouve qu'il y a un manque cruel de réalisme et d'action dans le milieu de la culture. Je m'entends, les acteurs culturels sont actifs, on est tous prêts, on est au starting block depuis des mois. Le fait de se plaindre ne change rien, le fait de crier et d'hurler au loup ne change rien, le fait de parler au pouvoir public ne change rien. Donc finalement, on est dans une situation, on est sous cloche, et je pense qu'on ne peut pas être fier de ses artistes. Un pays ne peut pas être fier de ses artistes quand ils jouent dans des grandes salles de concert. Un pays ne peut pas défendre ses artistes quand ils sont au mieux et simplement les ignorer comme c'est en train de se passer quand ils ne vont pas bien. Je m'explique. Les structures comme l'Opéra de Paris, la Philharmonie, les grandes institutions ont été aidées de façon massive, tant mieux pour eux. Les intermittents ont été aidés de façon massive, tant mieux pour eux. Les indépendants de la culture, c'est-à-dire les 1000 musiciens, les 1500 chanteurs et les 150 ensembles qui composent ces indépendants, ont touché au maximum, pour ceux qui l'ont demandé, 1 500 € depuis un an. Et ça, c'est tout simplement insoutenable. C'est insoutenable parce que ces acteurs sont ceux qui font vivre la musique en France et à l'étranger. C'est tout un écosystème autour. Et on peut pas simplement balayé d'un revers de main en disant mais c'est pas grave, tout ira mieux après, parce qu'il y en a beaucoup qui vont disparaître, il y en a beaucoup qui ne vont déjà pas bien du tout. J'ai bon nombre de mes amis musiciens, collègues qui n'arrivent plus à vivre, qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui n'arrivent plus à payer leur repas. Et parfois vous seriez étonné, ce sont des gens qu'on connaît, ce sont des gens dont vous parlez à votre micro, ce sont des gens qui enregistrent des disques, dont vous achetez des disques à la Fnac. Et puis ces gens-là, ils sont totalement isolés chez eux, à ne pas savoir. Voilà. Donc, comme nous n'avons évidemment pas de porte-parole, parce que la moitié de ces gens sont écrasés et qui n'ont pas de surface médiatique pour parler, l'autre moitié est en colère et crie, et les gens s'énervent entre eux et ça ne sert à rien, on reste des êtres humains. On a tout à fait compris que la culture était essentielle pour tout le monde, mais finalement vraiment essentiel en vrai, pas pour beaucoup de monde, en tout cas dans ce qu'on nous fait comprendre. Et c'est très décevant de la part d'un exécutif qui donnait toutes les gages, en tout cas toutes les preuves du contraire. On a un président qui est un féru de culture, on a un ministre de la culture qui est quelqu'un qui adore l'opéra, qui adore la musique, et je sais que tous se battent de leur façon, mais l'action, elle vient quand? Quand est-ce qu'on va sauver ces gens? Quand est-ce qu'on va dire, ok, moi j'ai proposé il y a 2 mois à l'exécutif un projet majeur, quand je dis majeur, c'est d'envergure, qui consiste à enregistrer en captation vidéo l'intégralité de la musique de Rameau jusqu'à nos jours. C'est un projet colossal, c'est quelque chose de titanesque, qui serait une première mondiale, parce que ça voudrait dire qu'on aurait à la fin une médiathèque absolument énorme, qui serait évidemment à disposition des Français, qui appartiendrait à l'État, je dirais. Et l'idée, c'est de faire enregistrer tous ces gens dont j'ai parlé tout à l'heure, qui galèrent depuis un an, les rémunérer de façon juste et pour leur permettre de vivre. C'est un double projet, ça leur permet de jouer, donc de travailler. Il y aurait tout une recherche aussi du répertoire. C'est un colossal projet pour arriver finalement à une médiathèque qui serait unique au monde. Et je pense que c'est un projet qui a du sens, qui permettrait à l'exécutif de ne pas simplement aider les gens, mais de faire un investissement pour l'avenir. Ce projet a été validé. Et ça
par
fait
qui?
Par l'exécutif. Ça fait 2 mois qu'on m'en parle et que j'ai quelques réunions. Et simplement, on me dit que ça va prendre beaucoup de temps. Et on n'a pas le temps. Et moi, je lance un ultimatum, simplement. Je dis, en gros, ou alors on y va tout de suite, ou alors on laisse tomber. Mais il faudra comprendre qu'on laissera sur le carreau. Il faudra que à ce moment-là, on assume, que l'État assume, qu'on aura abandonné quelques-uns des meilleurs artistes au monde.
À suivre, donc, cette question-là. Dans les jours ou dans les semaines à venir. C'est un disque qui a été enregistré après le confinement du printemps, avec les conditions sanitaires que l'on sait. On le voit d'ailleurs sur une photo qui est dans la pochette du disque Elgar, cet écartement entre les musiciens, ces masques qu'ils portent. Et ils jouent ici d'abord un extrait de la sonate d'Elgar, Renaud Capuçon et Stephen Hove au piano. Thank you. Le début de la sonate pour violon et piano d'Edward Elgar, un premier mouvement allegro, c'est sur ce disque qui paraît aujourd'hui chez Erato, Renaud Capuçon et Stephen Hoff. On va parler d'Elgar, je voudrais d'abord qu'on parle de ce grand pianiste. On avait à votre place dans ce studio Benjamin Grosvenor hier matin, autre grand pianiste britannique. C'est un grand pianiste, Stephen Hoff, qu'on connaît peu. Comment vous vous êtes rencontrés ?
On s'est rencontrés par mail, on s'est écrit beaucoup... il y a 3 ou 4 ans, parce qu'on avait un désir commun de jouer ensemble. Ça a pris plusieurs années. On a joué les 3 sonates de Brahms au Wigmore Hall à Londres l'année dernière. Et de là est née cette espèce de connivence musicale totale. C'est un immense pianiste. C'est désolant de voir que, encore une fois, notre pays reste très souvent dans des espèces de conventions. On invite toujours les mêmes, dont je fais partie d'ailleurs. Hein, on a peu de curiosité... je sais pas comment expliquer ça. On peut avoir des choses. On fait venir des artistes géniaux parfois qu'on découvre, et on a de l'autre côté de la Manche un des plus grands pianistes aujourd'hui, Stephen Hoff, qui vient, je sais pas, une fois tous les 3 ans ou 4 ans en France. Voilà, ça fait partie des énigmes à régler, je l'espère, parce que c'est un immense pianiste, une personnalité aussi extrêmement intéressante, un intellectuel, un écrivain. Enfin, des artistes avec qui j'aime être, parce qu'on apprend énormément.
Est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose d'ailleurs de cette musique d'Edward Elgar ? Alors il y a quelques tubes, on les connaît, mais cette sonate, et encore plus peut-être même le concerto qui est le cœur de ce disque et qu'on va écouter, on l'entend mais jamais en France.
Très très rarement. Ça, pour moi, c'est une vraie énigme. Je n'arrive pas à comprendre. Enfin, en même temps, quand on réfléchit à Brahms et quand on sait quand Brahms a été joué pour la première fois en France, on comprend qu'il y a des aberrations. C'était après la guerre, la deuxième guerre, donc c'est très très tard. Ce concerto est un des concertos majeurs du répertoire. Il est surtout d'une sensualité, d'une beauté et d'une noblesse à nul autre pareil. À part Philippe Graffin, qui l'a gravé il y a quelques années, je suis le deuxième violoniste français donc à le faire, ce qui me paraît pareil. Quand j'ai découvert ça, j'étais très étonné. Moi, j'encourage tous mes élèves à le travailler. Je trouve que c'est une œuvre qui est d'abord qui met le violon en valeur de façon incroyable, et puis il y a cette espèce de masse orchestrale derrière, de vague qui fait qu'on est porté, et puis quand on l'entend en tant que public, on est totalement transporté. On connaît en France bien sûr le concerto pour violoncelle un peu plus, qui a été évidemment porté par Jacqueline Dupré au Pinacle, et puis on joue parfois les variations, les Enigma variations, et le reste. Alors je sais que Daniel Harding a amené à l'Orchestre de Paris pas mal de pièces d'Elgar récemment, mais c'est souvent des Britanniques qui nous les font découvrir. Et donc si ce disque peut participer à faire un peu plus connaître Elgar dans notre pays et à ce qu'on découvre, ses symphonies sont absolument géniales. Il y a des œuvres, Gerontus est magnifique aussi. Enfin, il y a un quintet avec piano qui est une splendeur. Je pense qu'il y a, il y a de quoi vraiment découvrir.
Sur ce concerto pour violon, Renaud Capuçon, est-ce que c'est la dimension qui fait peur ? Parce que, si je ne m'abuse, c'est aussi un des concertos les plus longs de tout le répertoire. Il fait pas une heure, mais 50 minutes.
Oui, vous savez, parfois, là, je ne vois pas vraiment de raison pour laquelle ce concerto n'est pas joué. Oui, la longueur, ok, mais enfin, il n'est pas plus difficile que d'autres concertos. Il est très difficile. Le final pose des vraies questions techniques, mais de façon, elles sont tout à fait faisables. Il y a une cadence géniale avec l'accompagnement d'orchestre qui est unique en son genre. Je crois que c'est un phénomène. Vous savez, si on prend l'exemple du concerto de Korngold qui a été joué par Heifetz au tout début et ensuite qui est passé par de longues années de, il a totalement disparu du répertoire et il est revenu grâce à Gil Shaham et quelques autres qui l'ont remis au goût du jour il y a une vingtaine d'années, et maintenant il n'y a pas un seul violoniste qui n'a pas mis le Korngold à son répertoire. Donc je pense qu'il y a des questions de mode. On ne joue plus du tout aujourd'hui les concertos Wisniewski par exemple, on joue plus le concerto de Glazounov ou très peu, on joue pas le concerto de Goldmark, on joue pas du tout le concerto de Hindemith. Voilà, il y a des choses qu'il faut. Il n'y a pas que Mendelssohn, Brahms et Schumann.
Elgar, réhabilité par Renaud Capuçon sur ce disque Erato, la sonate et le concerto, sonate de 1918, le concerto de 1910, si je ne m'abuse. Et premier disque, là encore, autre grand artiste britannique avec Sir Simon Rattle. Vous n'aviez jamais enregistré ensemble, vous connaissez quand même depuis longtemps.
On se connaît depuis 20 ans, on est très proches. Et comme je disais à Simon Rattle, c'est assez cocasse de commencer une première collaboration avec le concerto le plus long du répertoire. C'est comme une façon de se rattraper. Plus sérieusement, c'est un artiste absolument magnifique, et dès le travail, déjà on s'est parlé au téléphone avant, on a ensuite échangé beaucoup, et puis on a surtout travaillé dans ma chambre d'hôtel les jours qui ont précédé cet enregistrement. Et ce que j'adore chez lui, pour l'avoir beaucoup vu diriger à Berlin et ailleurs, et aussi à Londres, c'est cette espèce de connaissance, de vaste connaissance de la musique, mais c'est ce qui se retrouve chez tous les grands musiciens que j'ai eu le bonheur de pouvoir rencontrer, cette espèce de vision globale des choses, qui font que quand vous travaillez avec eux, c'est comme quand un acteur vous parle d'un grand metteur en scène, qui tout d'un coup le fait exister différemment. Le fait de jouer avec Simon Rattle, ce concerto, je l'ai joué une vingtaine de fois avant avec d'autres chefs. Et là, tout d'un coup, il a éclairé certains passages. Il m'a donné parfois une indication qui m'a ouvert des horizons différents, qui m'a fait accentuer plus une phrase, peindre différemment une nuance. Et tout ça, c'est propre aux grands artistes. Et puis aussi une grande classe dans sa façon de travailler pendant l'enregistrement, une sorte d'efficacité dans la décontraction et puis un orchestre magique. Il faut savoir que le London Symphony a donné la première création de ce concerto avec Elgar à la direction et Fritz Kreisler au violon. Et ensuite, ils n'ont pas enregistré pour des raisons discographiques de maison de disques. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, c'est très dommage. Mais ils l'ont enregistré, le London Symphony, avec Menuhin et Elgar, quelques années ensuite. Et puis, juste après, Heifetz l'a enregistré, toujours avec le London Symphony. Donc, je peux vous dire que quand on commence l'enregistrement et qu'on connaît tout ça, je ne sais pas comment vous dire, on est à la fois emporté et on se sent tout petit quand même.
Andante, le deuxième mouvement de ce concerto pour violon d'Edouard Elgar. Bah oui, on se demande pourquoi il n'est pas plus joué en France et enregistré. Renaud Capuçon, l'Orchestre Symphonique de Londres, le LSO, dirigé par Sir Simon Rattle. Un disque qui sort aujourd'hui, un disque Erato, un disque enregistré dans ces conditions forcément particulières. C'était quoi, en septembre?
C'était en septembre, donc c'était un parcours du combattant. Déjà, simplement à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était très complexe d'aller en Angleterre, il y avait des quarantaines obligatoires. Donc, j'ai dû passer par l'Allemagne pour pouvoir ne pas faire ces 15 jours de quarantaine obligatoire, et c'était tout à fait permis d'arriver par l'Allemagne, et j'avais un concert en Allemagne, donc ça se passait bien, mais tout a été extrêmement complexe, et jusqu'à l'instant de l'enregistrement, on était aussi sous le coup d'avoir un musicien qui aurait été cas contact et qui aurait mis en péril cet enregistrement.
On entendait ici, et on parlait de Sir Simon Rattle, vous aussi, vous êtes... Chef, Renaud Capuçon, vous dirigez désormais Lausanne. Comment ça s'est passé depuis un an? Est-ce que vous avez...
Alors j'ai été nommé en mai dernier comme directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Lausanne suite à Wallerstein, le jeune Wallerstein, Joshua. Et je commence mon mandat en septembre prochain. Donc entre-temps, comme ils ont eu leur calendrier quasiment annulé pour plusieurs mois, on a monté plusieurs projets. J'ai dirigé deux sérénades, enfin une sérénade de Dvorak et une de Strauss pour instrument avant. On a monté le Kammerkonzert de Berg avec François-Xavier Roth et Bertrand Chamaillou. Et puis un autre programme avec Nicolas Angelich autour du concert de Chausson et du Doux de Mendelssohn pour que les musiciens jouent, pour qu'aussi on se connaisse mieux. Et puis on a enregistré un album à vos pertes qui paraîtra à la rentrée. Donc on a été assez actifs pour une période où normalement on n'aurait pas dû du tout se voir. Donc ça m'a permis de mieux les connaître aussi. Mais c'est une fenêtre qui s'ouvre pour moi pour un monde merveilleux, quelque chose dont j'ai toujours rêvé depuis plus de 20 ans, et je me prépare lentement mais sûrement depuis 20 ans sans en parler, parce que c'est quelque chose qui est très fort en moi, et donc j'ai beaucoup attendu, et je pense que j'aurais pu encore attendre 20 ans. Bien sûr, on n'est jamais prêt pour la direction d'orchestre, on n'est jamais prêt de façonner une sonorité face à un orchestre, mais à un moment donné, il faut franchir le pas, et j'ai cette chance incroyable d'avoir à mes côtés cet orchestre magnifique, l'Orchestre de Chambre de Lausanne, que j'ai entendu pour la première fois il y a plus de 20 ans, dans ses enregistrements avec Armin Jordan, notamment les concertos de Mozart avec Amoyal et Gérard Cosset, et puis les concertos pour piano avec D'Alberto. Donc je connais vraiment bien cet orchestre, et de pouvoir faire de la musique avec eux, c'est un grand, grand bonheur.
Ça veut dire moins de violon à terme, ou pas?
Pour le moment, non. Pas moins de violon. Les choses vont se passer plus de direction violon qu'avant, bien sûr. On avance doucement. Je vais aussi diriger des orchestres étrangers de plus en plus. Mais la proportion, elle reste pour le moment assez, assez équivalente.
L'année dernière, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence a été annulé. Cette année, il aura lieu quoi qu'il arrive?
Bah oui, d'abord, vous pouvez, en tant que mécène, le CIC nous soutient depuis le début. Vous pouvez pas simplement être mécène et que tout s'annule tout le temps, ça n'existe pas. Donc ils ont été extraordinaires de nous tenir la main l'année dernière et de continuer à le faire. Et cette année, aussi par respect pour les musiciens et pour les soutenir, on se doit d'exister. Donc on va faire 15 jours de festival en captation, 15 jours, un concert par jour, donc 16 concerts. Avec un programme qu'on a refait pour la troisième fois, que j'ai dû tout remanier. Des artistes magnifiques, Barbara Hannigan, Sol Gabetta, qui se sont ajoutés à ces programmes, parce que en fait il a fallu simplement rayer du programme des orchestres étrangers, parce que dans l'incertitude des accords avec les pays, je parlais encore à Daniel Barenboim hier, on attend de savoir selon ce que va dire Madame Merkel, si il peut venir ou pas, c'est le cas pour à peu près chaque artiste étranger. Tout est très complexe, il faut être flexible, c'est ce qu'on fait tous en ce moment, mais pour parler vraiment du festival, on est obligé, on se sent obligé, et c'est aussi un bonheur de le faire pour les musiciens, pour les artistes et aussi pour le public qui pourra suivre gratuitement ces concerts.
Et notamment les jeunes musiciens que vous soutenez, que vous portez. Vous jouerez notamment pour la première fois avec un jeune pianiste français très talentueux, Tanguy de Villiancourt.
Absolument.
Vous étiez aussi à Aix il y a quelques mois, c'était Nouveaux Horizons. Là, c'était des jeunes musiciens, mais aussi des jeunes compositrices et compositeurs. Vous avez toujours ce souci aussi de continuer dans la création ?
C'est essentiel, la création, mais les jeunes, je vais en parler un tout petit peu. Les jeunes, maintenant, ça devient très à la mode, on se sert des jeunes pour faire de la com. Ça, c'est insupportable. Ce qui est important, c'est de les aider, de vraiment les suivre, les porter. Toutes les actions que j'ai entamées depuis mars dernier, que ce soit les concerts Apollinaire, que ce soit les concerts à la Philharmonie, ensuite le projet Rolex qui a soutenu 70 jeunes de façon substantielle au point de vue financier, ou le projet Nouveaux Horizons dont vous avez parlé, puis l'intégrale des sonates de Beethoven à la Fondation Polignac. Dans le festival de Pâques cette année, on met l'accent encore plus sur les jeunes. Je clôturerai le festival, cette carte blanche qui m'est consacrée chaque année, au lieu de jouer avec un pianiste très réputé, je vais jouer avec 15 jeunes, deux octuors, celui de Mendelssohn et celui de Bruch, qui est beaucoup moins joué. Et donc ça sera 14 jeunes musiciens qui ont répondu immédiatement à l'appel. Ça veut bien dire qu'ils n'ont rien. Autour de Barbara Hannigan, on a un concert avec énormément de jeunes aussi. Il y a ce concert Génération avec Tanguy de Villancourt et la création de Élise Bertrand, qui est une jeune compositrice de 20 ans, et Jeanne Gérard qui va chanter avec moi. Donc c'est une nécessité. Mais quand on aide des jeunes, on les aide vraiment. Il ne s'agit pas de simplement agiter un drapeau, il faut aider, il faut aider, il faut le faire. Il faut agir. Et c'est une chose pour moi que je trouve, je pense qu'on m'a beaucoup critiqué, on continue à le faire. Certains adorent ça, c'est devenu un sport, et tant mieux pour eux si ça les amuse. Mais vous savez, je pense que il y a deux attitudes dans la vie. Où on agit, où on fait rien et on critique, et c'est beaucoup plus facile de rien faire et de critiquer. Donc que ceux qui veulent me critiquer continuent à le faire, tout ça n'a pas beaucoup d'importance.
C'est comme les trains, un disque peut en cacher un autre, ce Michael Jarel. Il sort dans quelques jours avec l'Orchestre National des Pays de la Loire. Alors, il n'y a pas que vous, il y a aussi Tabea Timmerman sur ce disque. Là, c'est 4 ou Vier Eindrücke, cette œuvre qui vous a dédié, ce compositeur suisse.
Oui, on a créé avec Pascal Roffet, qui dirige d'ailleurs ce disque, à Tokyo en septembre 2019. Et puis, on l'a repris avec l'Orchestre des Pays de Loire, qui a fait, je dois dire, depuis que Pascal Roffet est là, des progrès absolument incroyables. C'est un orchestre maintenant qui est absolument magnifique. Je les salue. Et ce concerto, qui est une des choses les plus difficiles que j'ai dû apprendre. Merci à Michael Jarel pour ces heures que j'ai passées sur mon violon. Mais ça aussi, c'est une chose de, je pense qu'on se doit, en tant qu'interprète, de jouer de la musique d'aujourd'hui. C'est pas de la com, c'est pas tiens, on va faire une création moderne. C'est moi, chaque année, je crée à peu près 2 ou 3 œuvres contemporaines d'aujourd'hui. D'abord parce que c'est passionnant, parce que c'est une chose essentielle à la vie de musicien, et qu'on joue ensuite Mozart, Schubert différemment. Et puis parce que c'est aussi un écosystème qu'il faut défendre, et c'est la musique d'aujourd'hui, elle est aussi essentielle que la musique d'hier, et ça, il ne faut jamais cesser de le dire.
Disque chez Beast Records, Michael Jarel, avec l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Roffet. Je voudrais qu'on revienne à ce concert ce soir, c'est sur la plateforme My Digital Arena, avec Guillaume Bellum, qui vous a accompagné pendant ces moments sur les réseaux sociaux au printemps. C'est quoi, c'est un rassemblement de tout ce que vous avez joué, des moments, c'est quoi l'idée de ce concert?
L'idée, en fait, m'ont contacté Olivia Productions et donc le Digital Arena m'a contacté au mois de novembre pour me proposer ce projet. Et en fait, moi, je pars du principe que dans une période comme ça, où on a table rase de tout et tout est annulé, eh bien, il faut faire des expériences. Donc, c'est un concert où on va jouer une vingtaine de pièces qu'on a repris des pièces qu'on avait choisies pendant ce confinement, et qu'on va jouer. Il va y avoir des incrustations vidéo. Je vais voir ça tout à l'heure. Avec quand ce sera des musiques de film, il y aura des extraits du film. Il va y avoir. C'est une sorte de spectacle, d'une certaine façon. Moi, je vais m'exprimer 2 ou 3 fois, je pense, pour parler un peu au public qui sera pas présent, mais qui sera bien présent parce qu'il y aura des questions. Je vais voir des questions. Il y aura des écrans de certains internautes. internautes, enfin certaines personnes qui sont devant leur écran. C'est une expérience et j'espère que ça sera une expérience formidable à renouveler.
Rendez-vous ce soir sur My Digital Arena pour ce concert en ligne avec Guillaume Bellum. Il est 8h55, on vous écoute depuis une demi-heure. Mais Renaud Capuçon, mais vous devriez faire de la radio. Attention, question de Marc Voinchet, directeur de France Musique. Vous savez de qui a composé ce jingle?
On me l'a dit.
1964, c'est Michel Legrand.
Ah, c'est Legrand.
J'ai pu citer Legrand, Cosma.
Non, c'est ça, absolument.
C'est quoi cette nouvelle casquette que vous mettez dans 15 jours?
C'est pas une casquette, c'est, vous savez.
C'est un prolongement?
RTL m'a proposé de tenir une chronique de 4 minutes deux fois par mois, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement modeste, mais c'est une radio qui est écoutée, comme vous savez, par beaucoup de monde, et je trouve formidable de pouvoir à la fois m'exprimer chez vous, de musique de façon approfondie.
Vous n'aurez pas de clause d'exclusivité, vous pourrez toujours venir.
Non, bien sûr que non, et de pouvoir, pendant 4 minutes, m'exprimer sur des sujets, sur des jeunes, défendre des projets. Évidemment, je ne serai pas là pour parler de moi, mais de parler des autres, et de mettre en valeur des gens, et de faire devant une écoute de 2 millions de personnes. C'est vrai que c'est une façon, c'est ce que j'aime avec le fait de populariser la musique. C'est de toujours garder le niveau, c'est-à-dire l'excellence, mais en tout cas de tâcher d'être dans l'excellence, ne jamais m'abaisser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets que je refuse, parce que j'ai l'impression que ce sont des choses qui ne servent pas à la musique. Mais par contre, d'essayer d'ouvrir et de parler comme on parle maintenant, mais pour un public plus large.
Votre femme, Laurence Ferrari, va vous donner des conseils?
Oui, c'est prévu, elle va me coacher le timbre de ma voix, voilà ce qu'elle m'a dit.
Et votre frère?
S'il va me coacher? Je sais pas. Faudra lui demander.
Dernière mesure du concerto pour violon d'Edouard Elgar avec Renaud Capuçon, l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Sir Simon Rattle, un disque Erato qui paraît aujourd'hui. Rendez-vous pour ce soir, le concert en ligne de Renaud Capuçon avec Guillaume Bellum, et puis rendez-vous à Aix-en-Provence fin mars.
À réécouter sur francemusique.fr.